Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleurs. Une émission réalisée par Corinelle, un programme Maurice Clément Fèvre. Depuis 2 ans, l'artiste a quitté définitivement l'appartement parisien pour sa propriété du bassin d'Argenteuil. Mais cela ne l'empêche pas de revenir à Paris régulièrement, de voir son notaire encore une fois et de retourner à la campagne brosser des compositions fleuries. Bienvenue chez Gustave Caillebotte.
Dernière volonté.
Le 5 novembre 1889, le peintre rajoute un nouveau codicille à son testament. Il conserve les anciennes dispositions, assurant Renoir de sa mission, et donne à sa compagne Charlotte Berthier une demeure au petit Gennevilliers. Cette dernière est pour l'instant louée au constructeur de bateaux, M. Luce. En cette année 89, a lieu l'exposition universelle à Paris. À cette occasion est organisée en mai l'exposition centennale de l'art français. Monet y figure avec 3 œuvres, ainsi que le tableau de Manet, l'Olympia, objet de bien des critiques au salon de 65. Afin de garder ce tableau en France et de l'offrir au musée de Luxembourg en 90, Monet lance une souscription publique à laquelle Caillebotte s'associe. Gustave, qui a toujours gardé d'excellents contacts avec les impressionnistes, renoue avec la tradition des dîners, une fois par mois, au Café Riche, entre 90 et 94. Autrefois, ces réunions avaient lieu au Café Gerbois ou à la Nouvelle Athènes. Dans un écrit de 90, Monet sollicite son ami.
« Puis-je vous demander à déjeuner jeudi 30 avril ? Nous reviendrions ensemble pour le dîner au Café Riche, car j'espère bien qu'il aura lieu. »
Une foule d'artistes y sont présents. Peintres, écrivains, collectionneurs, éditeurs. Ainsi, Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Octave Mirbeau, le docteur de Béliot, Georges Charpentier, Stéphane Mallarmé et bien d'autres encore se retrouvent-ils lors de ces soirées.
Voyage en terre de couleurs, les impressionnistes.
Le 28 mai 90, la famille de Martial Caillebotte s'agrandit avec l'arrivée d'une petite fille, prénommée Geneviève. Quant à la composition de l'entourage de Gustave, les informations nous sont données par le recensement de 91. Les occupants de sa demeure sont ainsi mentionnés. Gustave Caillebotte, 42 ans, chef de famille, peintre. Charlotte Berthier, 28 ans, amie. Marie-Alexandre, 48 ans, cuisinière domestique. Angèle Alexandre, 17 ans, domestique. Joseph Kerbrach, 41 ans, matelot. Marie Guémeneur, 35 ans, bonne. Guillaume Kerbrach, 14 ans. Et Gaillard Pierre, 33 ans, matelot. Caillebotte et Monet entretiennent des relations régulières. Monet n'hésite pas à solliciter auprès de son ami, en septembre 91, une embarcation stable pour y peindre. Lors de son mariage le 16 juillet 92 avec Alice Ringot, veuve Auchédé, Claude demande à Gustave d'en être le témoin. Une solide amitié a depuis longtemps lié les deux hommes.
Des natures mortes fleuries.
Caillebotte reprend goût à la peinture, en prenant pour sujet de nouveau son jardin et ses fleurs. D'ailleurs, en 1924, Gustave Geffroy déclarera
« Caillebotte a aimé les fleurs » qui colore et parfume l'atmosphère.
L'artiste se met à peindre paysages à Argenteuil, nasturtiums, 2 toiles de capucines destinées à la salle à manger du Petit Gennevilliers, puis chrysanthèmes blancs et jaunes, jardin du Petit Gennevilliers, au musée Marmottan à Paris. Ce tableau fera partie de la collection de Monet. Dahlia, jardin du Petit Gennevilliers, dans une collection privée, est daté de 93. Y est brossée la grande serre devant la maison, puis au premier plan, un massif de dahlia à côté duquel longe une allée où se tient un petit chien noir devant sa maîtresse, Charlotte Berthier. Orchidée, dans une collection privée aussi, est une étude pour un des 4 panneaux des portes de la salle à manger. Enfin, le jardin du petit Gennevilliers en hiver est peint en 94.
Stupeur.
« C'est dans ce jardin, où il avait planté son chevalet en hiver, que Gustave Caillebotte prend froid. Le 21 février 1994, à 9h du soir, il décède chez lui, des suites d'une congestion cérébrale, à l'âge de 45 ans et demi. Pour information, le docteur de Béliot, collectionneur et ami des impressionnistes, disparaît lui aussi cette année-là. C'est donc le demi-frère, l'abbé Alfred Caillebotte, qui célèbre les obsèques en Notre-Dame de Lorette. La foule est au rendez-vous. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, division 70, dans le caveau familial, pas très loin de Gênes-de-la-Croix. Pissarro écrit à son fils le 1er mars 1994.
Nous venons encore de perdre un ami sincère et dévoué. Caillebotte est mort d'un coup, d'une paralysie du cerveau. En voilà un que nous pouvons pleurer. Il a été bon et généreux et, ce qui ne gâte rien, un peintre de talent.
Le 27 avril 1994, Renoir et Martial Caillebotte font don du tableau Les raboteurs de parquet à l'État pour une entrée au Luxembourg en 1996. 3 mois après le décès de Caillebotte, une exposition posthume est organisée du 4 juin au 16 juin par son frère Martial chez Paul Durand-Revel, rue Le Pelletier. Quelques toiles sont vendues à des acheteurs réguliers sur les 123 exposés. Degas achète alors Rose jaune dans un vase daté de 82. Le 22 mai 1994, Claude Monet écrit à Martial.
Mon cher Martial, j'ai reçu ce matin les photographies de Gustave qui me font bien plaisir. Je vous en remercie beaucoup et aussi d'avoir pensé à m'envoyer celles où vous êtes tous deux. J'espère que maintenant que tout est entendu avec l'administration des Beaux-Arts, que bientôt, elle prendra possession des tableaux qui doivent être accrochés au Luxembourg. Lorsque vous en saurez à l'organisation et à l'accrochage de l'exposition de Gustave, ne manquez pas de me prévenir et usez de moi sans crainte. Vous savez le bonheur que j'aurai de m'occuper de sa mémoire.
Monet possède 2 tableaux de son ami. Rue de Paris, temps de pluie, esquisse de la toile de Chicago, et chrysanthème blanc et jaune au musée Marmottan aujourd'hui.
Un legs bien embarrassant.
Début des années 90, grâce au nouveau directeur des Beaux-Arts, Henri Rougeon, les achats de tableaux s'actualisent. En 92, une toile de Whistler, portrait de ma mère, et celle de Fantin-Latour, un atelier aux Batignolles, rentrent au musée du Luxembourg. Peu après avoir pris connaissance du nom de Caillebotte, le musée achète la toile de Berthe Morisot, jeune fille en toilette de bal, à la vente de Théodore Duret du 19 mars. Deux années vont s'écouler. Entre l'annonce du legs à l'État français d'une 60aine d'œuvres impressionnistes par un courrier de Renoir du 11 mars 1994 et le 25 février 1996, date du décret ministériel l'entérinant. À la lecture du testament, Rougeon déclare
« Affaire délicate ».
En effet, comment faire accepter les 67 toiles impressionnistes et les 2 dessins de Millet au musée du Luxembourg ? La commission du 23 mars autorise 60 toiles, pourtant seulement 30 seront acceptées. Selon Pierre Vesse et Marie Béraud, il n'y a pas eu d'affaire Caillebotte. Seuls les commentaires d'Octave Mirbeau ou ceux d'Ambroise Vollard, marchand de tableaux, ont pu traduire cette polémique. Cependant, dans le journal des artistes, le peintre académique Jérôme écrit
« Nous sommes dans un siècle de déchéance et d'imbécilité. C'est la société entière dont le niveau s'abaisse à vue d'œil. Pour que l'État ait accepté de pareilles ordures, il faut une bien grande flétrissure morale. »
La réaction des peintres académiques est virulente. Des professeurs des Beaux-Arts menacent de démissionner. Le conservateur du musée du Luxembourg, Léonce Bénédite, et le directeur des Beaux-Arts, Rougeon, sont ravis de ce don. Quant aux exécuteurs testamentaires, Martial Caillebotte et Auguste Renoir, ils veulent juste que les dispositions de Gustave soient suivies rigoureusement. Malheureusement, pour des questions juridiques, ce n'est pas possible. Seule une conciliation entre la famille Caillebotte et les notaires de l'État va les sortir de l'impasse. En effet, la commission du 19 mars, 6 au 11 boulevard de Clichy, dans un local loué par Renoir, examine les tableaux offerts. Renoir, Martial Caillebotte, Henri Rougeon, Léonce Bénédite sont présents. Or, dans le procès-verbal de la commission consultative, il est fait état qu'un tableau ne peut entrer au Louvre qu'au minimum 10 ans après le décès de son auteur, avec 3 œuvres par artiste, par manque de place au Luxembourg. Pourtant, le lendemain, le 20 mars, la dite commission autorise par vote l'entrée de toutes les œuvres dans les musées nationaux. Le directeur Bénédite émet l'idée de construire un abri provisoire sur la terrasse du musée afin d'y réunir la collection Caillebotte. Il devient alors impossible d'exécuter le testament au sens strict. Pour satisfaire les deux parties, la solution est que l'État choisisse ses tableaux et laisse le reste à Martial. Mais Bénédite objecte qu'un particulier ne peut détenir une œuvre appartenant de droit à un musée. Il suggère d'installer le reliquat dans les antennes des musées nationaux, comme les châteaux de Compiègne et de Fontainebleau. Aussitôt, Martial Renoir et le notaire Albert Courtier refusent catégoriquement cette entorse à l'état d'esprit du testament. En 1994, Monet inquiet écrit
« Il faut obtenir de l'administration des Beaux-Arts qu'aucun des tableaux donnés par Gustave ne soit relégué dans les greniers ou envoyé en province. »
Le 17 janvier 1995, le directeur des Beaux-Arts, Rougeon, réunit l'administration, les notaires, Martial et Renoir. Un autre compromis doit être trouvé. L'État choisit les œuvres à exposer. Les autres restent la propriété de Martial Caillebotte. Le décret ministériel du 25 février 1996 autorise les œuvres choisies à être exposées. 38 toiles et deux dessins de Millet sont finalement retenus. Les travaux de l'annexe provisoire du Luxembourg peuvent commencer. Le 23 novembre, Martial remet à l'État les œuvres sélectionnées. En février 1997, le public peut enfin admirer l'étoile du legs Caillebotte. La foule se déplace en nombre, mais l'endroit est restreint et les tableaux sont côte à côte. La critique ne se fait pas attendre. L'Académie des Beaux-Arts émet le 28 février un avis très négatif au ministre de l'Instruction publique. Il lui fait part
du regret unanimement éprouvé par les membres de l'Académie en voyant une collection de tableaux indigne à tous égards d'une pareille hospitalité figurée depuis quelques jours sur les murs du Luxembourg.
Hervé de Saisy, sénateur, condamne le 15 mars cette peinture immorale devant la Haute Assemblée. Le conservatisme est toujours prégnant et a du mal à accepter les évolutions picturales. Rougeon défend l'administration en se prévalant d'une diversité tolérante et du droit au public à trancher.
L'impressionnisme est un chapitre de l'histoire contemporaine de l'art que nous avons le devoir d'inscrire sur les murs de nos musées.
N'oublions pas que Renoir doit accepter un tableau important de la collection de Gustave, comme nommé dans le testament. Malheureusement pour lui, il ne peut reprendre son bal du Moulin de la Galette, pièce phare de la collection, car Martial s'y oppose. Il choisit alors un pastel de Degas, la leçon de danse. Il revendra quelques années plus tard ce tableau, entraînant de ce fait une brouille avec l'auteur. Martial a hérité en 1994 la propriété du petit Gennevilliers. Elle sera vendue en 1910 à l'entreprise qui deviendra la SNECMA. La demeure de Gustave n'existe plus aujourd'hui. En effet, elle a été complètement détruite en mai 1944 lors d'un bombardement allié.
Exposition.
Caillebotte fut redécouvert tardivement, tout d'abord avec le legs en 1966 de Michel Monet, dont le père possédait deux tableaux. Une rétrospective se tient en 1951 à Paris. Puis, dans les années 60, des expositions ont lieu à Chartres, Londres, New York, entre autres. Est organisé à Hyères, en 1987, un peintre dans son jardin, au temps de Lierre. 1994 voit une exposition au Grand Palais à Paris, sur Gustave Caillebotte. Puis, en 1995, c'est à Chicago et en 1996 à Londres que nous retrouvons l'artiste. En 2011, le musée Jacquemart-André à Paris présente « Dans l'intimité des frères Caillebotte, peintres et photographes ». 2012 voit l'exposition à Francfort sur le Main et 2013 à La Haye aux Pays-Bas. Enfin, au musée des impressionnistes de Giverny se tient en 2016 Caillebotte, peintre et jardinier. Nous remarquons que depuis une cinquantaine d'années, Gustave Caillebotte est à l'honneur à travers ces quelques manifestations citées. Notre voyage en terre de couleur se termine pour aujourd'hui sur la disparition prématurée de Caillebotte. Je vous invite à le poursuivre très prochainement sur cette même antenne pour le dernier épisode de son histoire.